vue d'esprit, Pierre-Yves Moret.
Maurice Zadel était un prêtre suisse, il est décédé il y a 40 ans. Il a beaucoup marqué les esprits de son temps, à l'image d'autres comme l'abbé Pierre ou le pape Paul VI. Mais il marque encore les esprits, sa pensée reste intacte et de nombreuses personnes s'en inspirent, y compris dans le monde de l'économie. Qui sont les héritiers de Maurice Zadel? C'est la question qu'A Vue d'Esprit se pose toute cette semaine. C'est Grégory Rode qui nous propose cette série d'émissions. Elle est réalisée par Jean-Claude Gailly. Bonjour Grégory Rode.
Bonjour.
Alors hier, nous avons débuté cette semaine auprès des héritiers ou de quelques héritiers de Maurice Zadel avec une présentation, un rappel de qui fut Maurice Zadel, né en 1897, mort en 1975. Nous avons aussi évoqué, rappelé sa pensée, sa théologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir en particulier un homme qui se sent inséré dans l'héritage de cette pensée.
Oui, il s'agit de Christopher Wassermann, qui est un chef d'entreprise et qui a pu, grâce à Zadel, faire une relecture de sa vie, alors on l'entendra, prendre aussi les options déterminantes, tant sur le plan privé que professionnel. Puis il a parallèlement réfléchi à un développement pour une économie qui soit plus au service de l'humain, dans son entreprise, mais aussi en créant avec des amis deux fondations qui ont abouti à plusieurs forums économiques. Alors j'ai demandé à Christopher Wassermann de choisir un extrait de Maurice Zadel qui l'a particulièrement touché.
Et disons qu'on est tous dans un cheminement, hein, de les catholiques disent de sainteté, les croyants disent dans un cheminement de construction. Et le combat intérieur qui consiste à... Est-ce que la vie est... Il y a des moments graves, il y a des moments gais, mais il y a quand même, un combat qui va vers de l'homme pour s'élever. Et pour essayer de retrouver en soi ce qu'il y a de plus pur, ce qui peut offrir, ce qui est un don. Et donc, pour moi, cette façon qu'a Zadel d'exprimer cette pensée, c'est de dire vraiment comment est-ce qu'on peut se libérer de son ego, se libérer de tout ce qui est notre moi biologique qui va créer des barrières dans notre vie et peut-être nous permettre de vraiment se connaître soi-même.
Quelque chose qui... Mais qui touche tout un chacun, ça c'est pas justement quelques personnes.
Ah oui, la pensée de Zadel est vraiment, je pense, elle s'adresse à tous, tous les hommes et les femmes de bonne volonté, pas forcément des croyants. J'ai peut-être un passage ici qui est intéressant. La pensée qui libère va au-delà de la religion, dit-il. Et quand on parle de la religion catholique dans le sens catholique universel, c'est vraiment de faire une rencontre avec le Seigneur, avec Dieu, et qui est parfois forcément de la théologie ou d'une idéologie. Et je crois que dans le message de Zadel, on retrouve assez fortement cette capacité d'aller vers l'autre, qu'on retrouve dans les commandements, hein, aime ton Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, et aime ton voisin comme je vous ai aimé, ou aime ton prochain. Donc il y a vraiment cette capacité d'aller vers l'autre, et puis d'avoir un langage du cœur qui permet de retrouver cette source en soi, et qui touche le cœur chez Zadel.
Quel effet cette parole a provoqué en vous, et d'une forme de relecture de votre vie, peut-être des événements qui ont construit votre histoire?
Oui, alors c'était un cheminement qui a commencé avant de découvrir Zadel, hein, pour être tout à fait précis, mais en relisant Zadel, ça a résonné en moi. N'est-ce pas, il pose la question qui est la suivante, quelque part dans un de ses écrits, alors je ne pourrais pas vous citer le livre. Et il dit, quelque part, assurez-vous que lorsque vous allez mourir, vous êtes un mort vivant. Bon, c'est un peu provocateur, hein, dans ce qu'il dit. Et quelque part, on doit se poser, en se posant cette question, on doit faire une espèce d'examen de conscience, hein, par rapport à trois aspects. Alors lui, il parle d'éternité, hein, c'est en éternité, parce que c'est un poète aussi, et donc il voit loin. Hein, et donc, et ces questions, c'est des questions que je me suis posées dans ma vie. Et ça a touché ma vie privée et ma vie professionnelle, parce qu'on est finalement, on est une personne, on peut pas se séparer en plusieurs, comme un salami, en plusieurs tranches de salami, on est la même personne. Et donc, à certains moments de ma vie, je me suis posé ces questions qui étaient de dire, est-ce que je suis entouré de personnes avec qui j'ai envie de passer mon éternité? Est-ce que j'ai un sentiment qui m'habite, qui est un sentiment que je voudrais voir perdurer pour l'éternité? Et est-ce que l'activité ou le métier que j'exerce, est-ce que ça, c'est un métier que j'aimerais continuer pour l'éternité? Et en se posant ces questions, il y a une clairvoyance comme ça chez Zadel qui m'a beaucoup aidé. à répondre. Parce que lui, il dit que si on répond non à ces questions, c'est qu'on est vraiment un mort-vivant. Donc, on doit essayer de changer quelque chose dans sa propre existence. Et dans mon cas, donc là, ça m'a permis de prendre des décisions parfois douloureuses au niveau de ma vie privée, de séparation et de divorce à un moment donné, ensuite reconnu par une annulation par l'Église. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir à l'activité que j'exerçais dans le groupe familial et de décider quelques années plus tard à créer ma propre entreprise et devenir plutôt entrepreneur. Et surtout, je dirais, ça m'a permis de faire un cheminement dans l'Église, de quitter l'Église réformée et de faire un chemin dans l'Église catholique, parce que j'ai été très attiré par la vie des saints. Ils sont des gens qui tombent et qui se relèvent souvent. Hein. On dit que le saint, c'est celui à travers qui la lumière du Seigneur passe, qui sont des gens comme vous et moi, et puis qui ont fait un cheminement et qui ont trouvé Dieu en se relevant souvent. Et donc, quelque part, si on prend cette image-là, j'ai eu une expérience dans ma vie qui a été un peu une remise en question de beaucoup de choses, qui était un rapt manqué qui a eu lieu une vingtaine d'années maintenant, plus de 20 ans. Une expérience un peu douloureuse, mais qui m'a permis de réfléchir justement à cette question de Paul Zindel en disant qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie, puisqu'on sait que la vie est fragile, hein, on est suspendu à un fil, on peut disparaître demain de maladie, d'accident. Et donc, quelque part, si on a envie de laisser derrière soi une trace pour ceux autour de nous, mais surtout pour nous-mêmes, on est obligé de donner un sens à sa vie.
Comment ça s'est passé, si je peux me permettre la question de ce rapt? Vous avez su les causes? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, j'étais une famille d'industriels assez connue dans la région, donc à l'époque c'était pour des questions financières, de rançon. Mais ce qui est intéressant, plutôt que l'événement en soi, où j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai réussi à sauter d'une voiture en marche sans me casser le cou, c'est que j'ai senti qu'il y avait des signes ce soir-là qui m'ont accompagné, qui ont fait que c'était pas mon heure n'était pas arrivée. C'est pas l'heure de mon passage. Je pense que j'avais encore des choses à faire ici. Et à l'époque, je savais pas très bien quelles devaient être ces choses. Donc ça déjà l'événement même où j'étais vraiment protégé par les anges. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part après cet événement, j'ai pu vivre ça sans que ça soit un renfermement sur moi-même. Et là, on rejoint un petit peu Zindel, hein, dans cette capacité d'aller vers l'autre, de s'ouvrir, qui permet de trouver des espaces de générosité en soi. À l'époque, j'ai eu très peur, hein, de cet événement-là. Et j'ai dû faire tout un travail de chez un psy, mais surtout un cheminement dans la foi qui m'a permis de faire confiance et de pas tout contrôler. Et puis, j'ai eu la délicatesse, le Seigneur a eu la délicatesse de mettre sur mon chemin des personnes et qui m'ont beaucoup aidé.
Vous parlez de la générosité, peut-être qu'il y a eu à un moment donné cet enjeu de se dire, j'ai peut-être que pensé à moi, j'étais égoïste, ou comment m'ouvrir aux autres et comment me donner aussi aux autres suite à ça, si je comprends bien.
Oui, parce que normalement dans ce genre d'événement, on a tendance à devenir un peu parano, hein, pas forcément aussi pour soi, mais pour sa famille, on a l'impression que ça va se reproduire encore. Et donc là, la grâce qui a eu lieu, c'est vraiment que j'ai pu m'ouvrir.
Quelles sont les personnes qui ont été mises sur votre chemin et qui ont participé à, vous le disiez pour l'image des saints, à se relever de dans sa vie?
Alors, c'était déjà été l'abbé Frochot, qui a été donc le prêtre de la paroisse de Morges à l'époque, qui m'a aidé dans ce cheminement. Puis ça a été le père Nicolas Butet, ça a été mon épouse Elisabeth qui m'a beaucoup aidé justement dans cette réflexion, dans les lectures de Zindel. Ça a été un certain nombre de personnes qui ont été mises sur mon chemin et à travers qui le message du Seigneur est passé.
Et vous parlez de message du Seigneur, qu'est-ce que c'était le contenu de ce message?
Pour moi, le message, c'était vraiment que Christ est vivant et que quelque part, je n'étais pas seul, en m'abandonnant à lui, je pouvais chasser mes peurs, mes incertitudes et vraiment de découvrir cette présence qui ne m'a pas abandonné depuis. Alors, il peut y avoir des moments de doute, mais c'est ce qui m'a vraiment redonné la paix du cœur, si on peut dire, une tranquillité que je n'ai pas pu découvrir par de la psychologie ou ce que je dis pas qu'il faut pas faire de psychothérapie, ça peut être aussi très utile, mais ça s'arrête à un certain niveau. Et là, ça a permis vraiment de retrouver une paix du cœur et aussi de pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions, puisque avec cette paix, on a un certain discernement. Alors, on parle de l'Esprit Saint, mais je pense que c'est vrai que j'ai découvert une présence cœur à cœur avec le Seigneur. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui s'apprend ou quelque chose que l'on, mais c'est quelque chose qu'on doit vivre.
Faire le lien, devenir vivant, comme dirait Zindel.
Pour revenir à ce vivant avec un grand V, hein, de dire que quelque part, si on souhaite être vivant, eh bien, il faut cette ouverture vers l'autre et pas se renfermer sur soi-même. C'est ce qui permet à nous de nous élever et de découvrir en nous notre capacité de tout ce qu'il y a de bon dans l'homme, toutes ces qualités qui sont là, qui sont peut-être enfouies. Justement à cause de l'ego, à cause des peurs, à cause de notre éducation, à cause de notre vécu et des douleurs et qui nous conditionnent. Donc il faut sortir de ce qu'il appelle le moi biologique pour vraiment arriver à s'élever. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui est facile, hein, c'est un combat qu'il faut continuer tous les jours. Grâce à ce rapt manqué, qui a été un peu le déclic pour ce cheminement, ça a permis de réfléchir aussi à comment intégrer dans mon entreprise la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir une feuille de route qui n'est pas simplement économique, mais aussi vraiment de voir comment intégrer les collaborateurs, toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, dans une réflexion vraiment au cœur de l'entreprise pour pouvoir créer une entreprise plus innovante, plus forte, qui ne vit pas dans une bulle, et qui n'est pas strictement focalisé sur des objectifs à court terme financiers.
Pour faire le lien entre votre vie, votre vie privée et votre vie professionnelle, il y a quand même cette lutte, ce dégagement de ce déterminisme. Comment échapper à ce déterminisme dans votre métier ?
Mais je pense que c'est avant tout ce que Zindel refusait, les idéologies et les étiquettes. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui était libre. Mais je pense que si on se focalise sur l'aspect de l'humain, en développant les personnes dans l'entreprise, parce que ça dépend comment on définit l'entreprise. Souvent, la définition d'entreprise, c'est d'amener une rentabilité, puis ça s'arrête là. Moi, je suis pour une définition beaucoup plus large, qui est de dire que l'entreprise, une entreprise a comme but d'amener du progrès. Et le progrès, c'est une évolution des personnes qui y travaillent, c'est une évolution des personnes autour de l'entreprise, ça peut être une évolution, un progrès technologique, etc. Donc, c'est une vision à moyen terme plutôt qu'une vision à court terme.
On préfère quelque part l'aspect social ou rendement, donc ou pire, même si on fait moins de chiffre d'affaires mais qu'on a une meilleure entente dans l'entreprise, c'est positif pour vous, si je comprends bien.
Mais je pense que si on s'occupe des hommes, on obtient les résultats financiers. Les deux vont pas, c'est pas un échange où vous êtes sur la finance ou vous êtes sur l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des abus, il y a des exemples qui vont pas dans ce sens-là, malheureusement, et c'est peut-être pour ça que le monde va pas très bien. Mais je crois que Zindel disait que le travail, c'est pas seulement de produire des produits ou un service, c'est aussi de construire l'homme. Hein. Et là, il rejoint Jean-Paul II dans les encycliques qui dit que vraiment le travail devrait être une façon d'humaniser l'homme et de le construire. Et donc finalement, la finance doit être au service de l'économie, l'économie au service du bien commun. Le bien commun, c'est le vivre ensemble, hein, si on veut. Et puis le bien commun au service de la personne. Mais au fait, on doit retrouver toujours l'homme. Et on a perdu, je pense qu'on a perdu un petit peu cette perspective-là. Et on a l'impression qu'il faut, ou on s'occupe des hommes, ou on maximise les finances. Et ça marche pas, quoi.
Christopher Wasserman, en tant que chef d'entreprise, comment vous vous y prenez pour justement faire le lien entre l'humain et la finance ? Quels sont vos plans, vos stratégies ? Comment vous faites ça ?
C'est clair que d'abord, il faut s'occuper d'avoir un business qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a quand même les bases de l'économie sont toujours là, dans le sens que on parle pas ici de solutions idéologiques, il faut que ça soit vraiment dans l'objectivité du réel. Donc quelque part, il faut s'occuper de bien fabriquer, de fabriquer un produit de qualité ou un service de qualité. Mais je pense que l'aspect humain, qui est la formation des personnes en interne, avant de s'occuper de faire de la philanthropie en réinvestissant des profits à l'extérieur, comme on entend souvent, c'est avant tout au cœur de notre métier, de notre stratégie, qu'il faut placer l'humain dans, par exemple, avec des programmes de formation. On a investi beaucoup dans les formations pour redéfinir un peu le rôle du manager, qui n'est pas quelqu'un qui doit contrôler tout, mais qui doit vraiment être un facilitateur, qui doit créer un cadre pour les personnes dans l'entreprise, pour que chacun puisse être mis à sa place et qu'on puisse utiliser les talents de chacun, y compris ceux qui sont derrière les machines. On a beaucoup d'ouvriers, on n'a pas que des ingénieurs, même si c'est un domaine assez technique. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir apprendre de ces ouvriers comment, justement, que ce soit eux qui puissent amener des suggestions d'amélioration continue, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des délais de livraison, au niveau de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. etc. Puisqu'au fait, dans le management, on vous apprend à gérer des ressources. Et bien, les hommes ne sont pas des ressources. Hein. C'est un capital humain, si on veut. Mais ce sont des talents, mais ce ne sont pas des ressources. Donc, il y a tout un travail, je pense, au niveau du management pour essayer... Et les entreprises qui ont réussi à reconcilier, justement, le respect des personnes de façon très logique arrivent à des très bons résultats.
Alors, si je comprends bien, l'argent que vous pourriez, en tant que bénéfice, réutiliser pour des actions, vous dites pas tout de suite. D'abord, on va réinjecter ça dans l'entreprise pour des formations.
Oui, donc il faut investir dans l'entreprise. Moi, j'ai pas touché de dividendes durant beaucoup d'années. Et puisqu'on a réinvesti dans la formation, dans la recherche, ou dans le développement plutôt, et dans des nouvelles machines, ça, ce sont des signaux forts, parce que les gens vous respectent pas tellement par ce que vous dites, mais pour vos actions, je crois. Alors, je suis pas tout seul, hein. J'ai une bonne équipe autour de moi, et dans chaque site, il y a un directeur, un responsable qui travaille dans cet esprit.
Et dans cette formation, comment vous avez fait concrètement? Vous avez fait appel à une ONG extérieure? Vous avez des contacts?
Oui, on a fait appel à deux. On a fait appel à une ONG américaine qui s'appelle Great Place to Work. C'est un journaliste qui a démarré ça une trentaine d'années, puis qui a essayé d'identifier quels sont les facteurs de comportement humain, tels que la confiance, la camaraderie, le respect des managers, l'envie, le plaisir de travailler dans une entreprise, etc. Des choses que vous ne voyez pas sur un bilan financier, mais qui jouent un rôle important. Alors, comment mesurer ça? On fait une espèce d'audit, une espèce d'enquête, où les gens ne mettent pas forcément leur nom. Et donc, les opérateurs, les salariés répondent à un certain nombre de questions. Ensuite, on répertorie tout ça et on leur présente. Et à partir de ça, on a fait des formations pour essayer d'améliorer, justement, certains points qui n'étaient pas suffisamment forts dans l'entreprise. Comme, par exemple, le respect des managers. Certains managers n'étaient peut-être pas respectés parce qu'ils ne traitaient pas les gens selon les valeurs de notre entreprise. Et peut-être s'en rendaient même pas compte.
Les valeurs d'entreprise, justement, comment elles se véhiculent? Vous êtes arrivé vous-même tout seul avec des valeurs et vous les avez...
Nous, on a réuni tous les managers et les salariés pour essayer de faire ressortir ces valeurs. Et après, il faut pouvoir les vivre. Et là, c'est un travail qui n'est pas terminé. L'idée, ce n'est pas d'avoir un beau poster sur le mur avec des valeurs, c'est vraiment de pouvoir les vivre. Et là, on continue dans ce sens-là et on essaie de créer des petits groupes de travail aussi. On illustre parfois les comportements et voir s'ils sont vraiment en adéquation avec ces valeurs ou pas.
Et ces valeurs, comment elles se définissent? Enfin, comment vous avez présenté le projet?
On a créé une charte de valeurs qui passe par le respect de l'individu, bien entendu, mais aussi le respect du client, qui passe par la transparence dans la communication, qui c'est souvent un élément de pouvoir. Hein. Si certaines personnes ont des informations et d'autres n'ont pas, c'est une façon aussi de diviser pour régner. Donc, voilà, on a créé une charte de 7 valeurs qui sont vraiment issues de nos gens à nous. Donc chaque entreprise n'a pas forcément les mêmes valeurs. Puis après, il faut pouvoir les faire vivre et être sûr que le comportement... Et ça commence par moi et ensuite par les managers qui soient eux-mêmes exemplaires, entre guillemets, par rapport à ces valeurs-là. Et ce n'est pas toujours évident, mais je pense que les salariés, ils sont très rapides à détecter votre comportement s'il n'est pas en adéquation avec ce que l'on affiche comme étant une valeur importante.
Est-ce que tous vos subordonnés étaient d'accord avec ça, les cadres de votre entreprise, ou est-ce que vous avez vécu une forme de résistance parmi certains d'entre eux?
Une majorité était d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Alors on essaie de les convaincre, et puis ceux qu'on ne peut pas convaincre, ben je pense qu'ils vont se quitter l'entreprise, comment dirais-je, s'éliminer d'eux-mêmes, si je peux m'exprimer comme ça, et c'est peut-être pas une mauvaise chose à un moment donné, parce que si vous avez des gens qui sont totalement contre. Normalement, ils quittent d'eux-mêmes. On a eu quelques cas, malheureusement, où on a dû prendre des décisions. Pas de gaieté de cœur, toujours en dernier recours, pour aider les autres, puisque quelque part, on ne peut pas non plus féliciter ou encourager un certain type de comportement. Et puis, complètement fermer les yeux s'il y a des gens qui ne sont pas... C'est un peu comme l'arbitre au football, hein, il est obligé de sortir le carton jaune, parfois le carton rouge, parce que ça peut ensuite créer une mauvaise ambiance. Et décourager ceux qui sont justement porteurs de ces valeurs.
Christopher Wassermann, vous expliquiez tout à l'heure le lien que vous avez fait justement entre ce cheminement de vie et comment vous l'avez mis à jour dans votre entreprise. Est-ce que finalement vos collaborateurs aussi savent que vous faites cette démarche-là, peut-être en tant que Zindelien ou personne qui aime Zindel, ou peut-être même en tant que chrétien, ou est-ce que vous gardez comme ces valeurs pour vous ?
Non, alors je ne suis pas dans l'entreprise pour évangéliser les salariés. Par contre, je n'ai pas caché ma foi, les valeurs chrétiennes qui m'animent. Et puis j'ai créé deux ONG avec d'autres amis. Une ONG s'appelle Ecophilos, et qui est basée à Fribourg, et qui a comme objectif de réunir des chefs d'entreprise sur l'application de la doctrine sociale de l'Église. Donc on parlait du bien commun tout à l'heure. Puisque quelque part derrière les valeurs de l'entreprise, il y a les valeurs chrétiennes souvent. Et une deuxième fondation que l'on a créée qui s'appelle le Zermatt Summit. Elle est chrétienne dans ses valeurs, mais elle est moins chrétienne dans sa façon d'exister, qui est de réunir vraiment des chefs d'entreprise et dirigeants pour réformer le système économique, et remettre l'homme au centre. Alors, des exemples, j'en ai parlé un petit peu de ce que je fais dans mon entreprise. Il y a deux entreprises qui font ça depuis longtemps pour donner envie à d'autres de travailler dans cette façon-là et de bien montrer que la recherche de profit et le respect de la personne ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles vont ensemble, elles se renforcent. Mais aussi, on essaie d'inviter la société civile, des personnalités du monde politique, des autres parties prenantes de la société pour que l'entreprise travaille vraiment en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour trouver des nouvelles solutions. Parce qu'on a l'impression que clairement, aujourd'hui, le système économique souffre. Les gens souffrent avec et il va falloir reconstruire sur des bases nouvelles. Dans une collaboration, on rejoint la Zindel, je et un autre, en allant vers l'autre. Les solutions dans l'économie viendront pas seulement de chefs d'entreprise éclairés, mais vraiment de collaboration entre l'entreprise, le politique, l'entreprise, la société civile. Et il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens. Les entrepreneurs sociaux, qui sont des nouvelles formes d'entreprise, qui règle des problèmes sociaux et environnementaux. Et donc, il va y avoir une espèce de révolution, mais qui commence par la révolution du cœur. Et là, on rejoint Zindel. Quelque part, la plus grande révolution, c'est le passage de la tête au cœur. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Et ça peut prendre toute une vie. Et je crois que c'est vraiment là le message de Zindel. C'était un grand intellectuel, mais c'était aussi quelqu'un qui avait trouvé le cœur à cœur avec le Christ.
Christopher Wassermann, vous avez effectivement cette manière assez particulière de rejoindre, de mettre ensemble l'économie, le profit, l'éventuel profit de l'économie, mais surtout au service de l'homme. Comme vous l'expliquez, ça paraît effectivement très simple, mais alors si c'est si simple que ça, pourquoi il y a si peu d'entreprises qui le pratiquent et pourquoi ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est difficile de parler, de dire ce que les autres pensent de mon entreprise, parce que j'aurais peut-être pas un jugement tout à fait objectif. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, on n'en parle pas suffisamment, qui font du bon travail. Surtout dans les entreprises familiales qui ont une vision à plus long terme. Quand je parle d'entreprises familiales, en Suisse, on a 80% ou plus de 80% d'entreprises PME. Hein, celles qui vont amener ce changement et qui sont porteuses de sens, de valeur. Et l'entreprise familiale, elle veut normalement vivre à long terme. Elle veut passer à la deuxième, à la troisième génération. Donc je pense qu'il y a beaucoup, ces chefs d'entreprise ou ces dirigeants ne font pas trop de bruit, parce qu'ils ne cherchent pas la publicité. Et donc je pense que déjà ça, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Hein. C'est clair que quand on a un scandale de UBS qui manipule les taux Libor, etc., ça fait plus de bruit dans les médias. Donc je pense que les médias ont aussi un rôle de parler peut-être des entreprises qui marchent bien, qui ont réussi à réconcilier ça. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans le système économique aujourd'hui qui ne veulent pas que ça change, puisqu'elles sont bien rémunérées, elles ont des positions de pouvoir et d'autorité. Mais je dirais que celles qui ont quand même une clairvoyance réalise qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance, un problème de climat de confiance qui se crée partout. Et ça, il va falloir regagner la confiance des salariés dans les entreprises. Et je pense que le drame, un petit peu, si l'on veut, c'est qu'on a l'impression qu'on est impuissant. Mais on a une énorme responsabilité comme personne humaine de pouvoir s'engager dans sa vie privée en tant que citoyen, en tant que consommateur, en achetant responsable, en achetant des produits de proximité. Et dans ce sens-là, on peut contribuer à changer le monde.
Les propos de Christopher Wasserman, chef d'entreprise qui répondait à vos questions, Grégory Roth. On peut le préciser, il est président de Terrolab Surface, une entreprise d'ingénierie en revêtement de surface et du secteur biomédical. D'ailleurs, Grégory Roth, je pense que grâce à vous, c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un avec cette étiquette professionnelle dans à vue d'esprit. Mais on l'a entendu, donc, la pensée de Maurice Zindel lui a permis de faire une relecture importante de sa vie, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel.
Oui, on le sent très imprégné par cette pensée. Et comme il l'a brièvement évoqué tout à l'heure, c'est son épouse, Elisabeth Sombart, qui lui a fait découvrir cette pensée. Elisabeth Sombart, qui a développé notamment une approche phénoménologique de la musique grâce à la pensée de Maurice Zindel.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'un couple zindelien, en l'occurrence, alors?
Oui, alors, exactement. On pourrait dire ça.
Demain, nous allons poursuivre cette série d'émissions sur les héritiers de Maurice Zindel. Alors là, on va rencontrer quelqu'un qui se situe un peu plus spécifiquement du côté de la théologie.
Oui, demain, nous rencontrerons François Rouillet, qui est accompagnant spirituel dans le service d'aumônerie du CHUV, mais qui est d'abord théologien et bon connaisseur de Maurice Zindel. Il a d'ailleurs fait son travail de licence sur le scandale du mal et de la souffrance chez Maurice Zindel. Maintenant qu'il est accompagnant spirituel dans un centre hospitalier, il rencontre quotidiennement des personnes souffrantes. Alors, comment cette pensée continue à l'aider dans son travail? Et est-ce qu'il y a une réponse à donner face à la souffrance? C'est ce que je vous propose en tout cas de découvrir demain.
Et ce sera donc à 16h30. Merci beaucoup Grégory. Et d'ici là, on peut rappeler encore une fois notre page internet rts.ch/esprit. Et si nous le rappelons, c'est pas simplement pour faire la publicité, mais c'est parce que vous y avez placé aussi, Grégory, des références complémentaires, notamment sur les associations des amis de Maurice Zindel ou des références biographiques qui vous ont servi pour cette semaine. rts.ch/esprit. Et puis quelques remerciements. Merci encore à Jean-Claude Gailly qui réalise cette série d'émissions. C'est la fin de cette édition à vue d'esprit. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle encore une fois notre page internet rts.ch/esprit. Vous y trouvez toutes les indications complémentaires et la possibilité de réécouter cette série d'émissions rts.ch/esprit et puis l'adresse de notre portail internet rtsreligion.ch. Dans quelques minutes, c'est Daniel Robella que vous retrouvez d'un air entendu. Très belle suite de journée sur Espace 2. Il est 17h.